Vous écoutez France Culture.
Le journal était signé Sarah Petitbon. Elle sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort, je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information avec au poste de pilotage ce matin Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Francis Pascal. C'est le secret des sources sur France Culture et sur franceculture.fr pour tous vos commentaires. Avec nous ce matin deux confrères pour deux livres qui viennent de paraître et qui vont nous permettre de revenir sur deux évolutions médiatiques marquantes de ces derniers mois. D'une part, l'essor de la couverture people de la politique incarnée par les révélations sur la vie privée du président. D'autre part, la multiplication des rumeurs parfois transformées en informations sans réelle vérification, comme l'enseignement prétendu de la théorie du genre à l'école. Politique, rumeurs, vie privée, la presse entretient-elle la confusion des genres? Nous recevons donc Élise Carlin, journaliste politique à l'Express. Vous publiez chez Fayard Le président qui voulait vivre ses vies. Et Mathieu Aron, directeur de la rédaction de France Inter, vous co-signez avec Franck Cognard chez Stock Folle Rumeur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Avec nous également, exceptionnellement aujourd'hui, deux membres de notre cercle d'observateurs des médias, la sémiologue Mariette Darigrand et la directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, Isabelle Vera-Masson. Bonjour également.
Bonjour.
Et je n'oublie pas l'homme des images et du multimédia, c'est le grand retour d'Éric Chavroux. Bonjour Éric.
Bonjour.
Tout doit me conduire comme citoyen à poursuivre cette publication. Et si je me retiens, c'est parce que précisément, je ne veux pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Mais mon indignation est totale. Je dis bien totale. Et là-dessus, il s'agit d'une question qui n'est pas personnelle. Pas seulement personnelle. Mais parce que c'est une violation qui touche une liberté fondamentale et qui peut tous vous concerner. Respect de la vie privée et de la dignité des personnes.
And what do you have to say about your relationship with the French president?
I will answer. My private life is my private life.
François Hollande lors de sa conférence de presse en janvier et Julie Gayet en mars à New York, interpellée sur sa relation présumée avec le chef de l'État et répondant, vous l'avez entendu, « Ma vie privée, c'est ma vie privée ». Mais ce n'est visiblement pas l'avis de la presse française, du moins des journalistes politiques, et pas le vôtre, Élise Carlin, puisque dans ce livre, Le président qui voulait vivre ses vies, vous avez donc choisi de raconter dans le détail, sur 170 pages, la vie sentimentale du président. Vous décrivez cet épisode du début de l'année comme, je cite, un fait politique majeur. C'est donc ainsi que se justifie aussi cette enquête, ces 170 pages. Est-ce réellement un fait politique majeur? Parce que si ça ne l'est pas, il ne reste plus que l'intrusion dans la vie privée.
Si ça ne l'est pas, je ne fais pas ce livre. C'est pas le récit des aventures sentimentales de François Hollande, pas du tout. C'est la manière dont la vie sentimentale de François Hollande a pesé sur sa vie publique, c'est-à-dire des meetings, qui sont des événements publics, son arrivée à l'Élysée, qui est un événement public, des décorations de gens qui ont eu lieu à l'Élysée, et pour ces décorations, des gens n'ont pas pu venir pour des raisons privées, alors que c'était des événements publics. Voilà, c'est ça que j'ai voulu raconter.
De la même façon, vous utilisez à peu près la même formule, je crois, sur la jalousie, j'allais dire quasi maladive, enfin en tout cas la jalousie de Valérie Trierweiler à l'endroit de Ségolène Royal. Vous dites que c'est un marqueur politique inouï. Je crois que c'est ça l'adjectif que vous utilisez.
Parce que
donc de la même manière, là, ça justifie le fait de raconter le vaudeville, si je puis dire.
Oui, parce que cette jalousie, si elle n'avait pas concerné la politique, c'est-à-dire si elle s'était arrêtée à la porte du couple, autrement dit que les scènes qu'elle a pu faire à François Hollande n'aient jamais été publiques. Personne n'en aurait rien su et personne n'aurait eu le droit d'intervenir ou de raconter ça parce que c'était entre eux. Or, ça n'a pas été simplement entre eux. Ça s'est passé dans des réunions politiques, ça a joué sur des décisions politiques. Donc, c'est un marteur politique. Ça a pesé sur toute la campagne présidentielle. C'est pas rien, une campagne présidentielle.
Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une forme d'auto-justification de la presse en général sur ce sujet-là? C'est-à-dire de décréter dans l'autre sens, c'est un fait politique, donc du coup, on s'arroge le droit d'aller farfouiller dans les poubelles. Vous voyez ce que je veux dire?
D'abord, je ne crois pas que ce soit les poubelles.
Oh, il y a des épisodes qui sont vraiment de l'ordre du vaudeville sentimental, quand même, malgré tout, qui ne nous regardent pas nécessairement.
Ça nous regarde, puisque ça a pesé sur des décisions publiques. Encore une fois, par exemple, prenez Ségolène Royal. Pourquoi Ségolène Royal n'est pas ministre en 2012? Est-ce qu'elle est moins capée qu'aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a pas déjà été candidate à l'élection présidentielle? Est-ce qu'il y a des expériences politiques qu'elle a aujourd'hui qu'elle n'avait pas à ce moment-là? Aucune. C'est exactement la même femme. Or, elle n'est pas ministre en 2012 et elle l'est aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? Uniquement pour des raisons privées. Autrement dit, ce n'est pas les poubelles, ce n'est pas uniquement sa vie sentimentale, c'est un marqueur politique et ça a pesé sur notre vie publique, pas seulement la sienne, la nôtre. C'est vous et c'est moi qui sommes concernés par ça.
Quand on a eu la publication de ces fameuses photos par Closer, on a beaucoup entendu à ce moment-là, en janvier, l'argument selon lequel c'était d'un intérêt public parce qu'il y avait la question de la sécurité du chef de l'État. Mais très franchement, rétrospectivement, est-ce que ça, c'était pas un peu un cache-sexe? Est-ce que ce qui intéressait pas tout simplement la presse, et on peut l'assumer, c'est encore une fois la vie du président, voilà, tout simplement.
Mais c'est
parce qu'on
juste...
a beaucoup entendu cet argument quand même au moment de la publication, hein, que ça justifiait la publication. C'est d'ailleurs l'argument qui a été développé devant les juridictions, hein, devant le tribunal, par l'avocat de Closer. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était un cache-sexe ou pas?
Non, je crois pas que ce soit un cache-sexe. Ce qui est vrai, c'est que je suis pas sûre qu'un autre hebdomadaire aurait publié ces photos. À ce moment-là, des gens le savaient et ça ne sortait pas. Donc, il y a un verrou qui a sauté, c'est Closer qui l'avait sauté. Sans doute, ne l'aurions-nous pas fait, l'Express, Le Point, j'en sais rien. En tout cas, je crois qu'on aurait eu des photos comme ça, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Il se trouve qu'ils le font. L'époque a changé, c'est comme ça. On ne peut pas être aujourd'hui à l'Élysée et avoir des vies contradictoires. Une publique, une officieuse, ce n'est pas possible. C'est peut-être regrettable, en tout cas, c'est comme ça. On n'est plus à l'époque de Mitterrand.
Dans un instant.
Voilà, on ne peut pas avoir une vie cachée et avec des gens qui sont au courant et d'autres qui ne sont pas, ce n'est pas possible.
Alors on va s'arrêter quand même un petit instant sur la question du droit, parce qu'il y a donc eu quand même cette audience devant le tribunal. Julie Gaillet a d'ailleurs obtenu la condamnation du magazine Closer. Je voudrais qu'on écoute ce que disait son avocat Jean Henoki à l'audience.
C'est une atteinte à la vie privée de suivre les gens, de les traquer, d'avoir un contrat par lequel un paparazzi va suivre quelqu'un pendant des semaines, de chez lui, partout. Donc voilà, l'atteinte à la vie privée, elle est avérée, il n'y a aucun intérêt légitime.
Et dans la foulée, le tribunal a également estimé qu'il y avait atteinte à la vie privée. Pourtant, les publications continuent. Votre livre en est un exemple. Est-ce que ça veut dire que ce genre de condamnation par le tribunal, ça n'a aucune importance pour la presse? On s'en fiche, en fait, ou...
Mais moi, personne ne m'a attaqué. J'ai pas été... Pour l'instant, je n'ai reçu aucune assignation de rien du tout. Donc, je ne crois pas que je sois exactement le... Vous puissiez me comparer.
Non, c'est pas le cas particulier, je parle en général. Je veux dire, est-ce que la presse ne regarde pas ces condamnations d'un air, bon, on s'en fiche après
Moi,
tout.
J'ai toujours entendu que les condamnations n'étaient finalement pas excessives au regard de ce...
15 000 euros, hein, je crois que c'est la condamnation dans le cas
oui,
d'espèce.
Mais en l'occurrence, ce numéro de Closer leur a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il s'est très, très, très bien vendu.
Il s'est vendu 600 000 au lieu de 300 000 voilà. Exemplaires, je crois que c'est ça. Je dois me tourner une première fois vers nos observatrices à l'extérieur, Isabelle Véramasson et Mariette Darégrand. On voit bien, Élise Carlin le disait à l'instant, que avec cette affaire, le curseur s'est déplacé encore un peu plus que lors de l'affaire DSK, par exemple, que la presse a décidé que bon, ben voilà, la vie privée des hommes politiques, ça la regarde. Est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, pour les journalistes, et je vous pose la question à toutes les deux, la psychologie des hommes politiques, et donc leur vie privée aussi, est plus importante que leur décision politique?
Est-ce que Isabelle Véramasson? Je prends la parole parce que j'aimerais en profiter pour m'adresser à Élise Carlin à propos de ce qu'elle a dit sur Ségolène ministre. Moi, je trouve que c'est un peu l'exemple du rôle des journalistes face à ce genre de questions. Vous dites que c'est parce qu'il y a eu Valérie Trierweiler que Ségolène Royal n'a pas été ministre immédiatement. J'ai bien compris. Moi, je me demande si ce n'est pas le contraire. Moi, j'ai été beaucoup interrogée par les journalistes étrangers à ce propos-là. Ils sont sidérés que Ségolène Royal, qui a été la femme de François Mitterrand, qui est la mère de ses quatre enfants,
François Hollande,
intéressant, et de la mère surtout la mère de ses quatre enfants, puisse être ministre dans le même gouvernement. Pour eux, c'est plutôt ça qui était étonnant. C'est-à-dire que la vie privée, elle jouait non pas à cause de Valérie
Trierweiler. Avant d'être la mère des enfants.
Oui, mais le fait qu'elle ait été très intime du président aurait dû, pour certains observateurs étrangers, l'exclure, ce qui est injuste. D'ailleurs, moi, en tant que femme, je trouve ça injuste.
Qui est totalement
injuste.
Mais c'est
un des effets de la vie politique et de ce lien avec la vie privée, c'est qu'il est difficile de comparaître ensemble au Conseil des ministres. Donc, je trouve que cette manière que vous avez, c'est une sorte de justification a posteriori de cette intrusion dans la vie publique, dans la vie privée des hommes politiques, alors qu'en fait, encore une fois, on aurait pu tenir le discours absolument inverse.
Pour moi, c'est mon argument de l'auto-justification.
Voilà, femme politique. Et je trouve qu'il est parfait dans ce cas-là.
Mais vraiment, elle a été candidate à l'élection présidentielle. C'est une des femmes politiques les plus importantes de ce pays. J'aurais trouvé totalement anormal qu'elle n'entre pas au gouvernement pour une raison qui aurait été, ben non, elle ne peut pas être là parce qu'elle a été la compagne de François Hollande. En gros, on ne regarde pas ce que vous avez donné comme gage, ce en quoi vous êtes une vraie professionnelle, on ne regarde que les enfants que vous avez faits et la personne dont vous avez partagé la vie.
Disons les relations privilégiées, particulières que vous avez avec elle.
Ben, ça aurait été totalement anormal.
Alors, on va clore la parenthèse de Ségolène Royal. J'aimerais quand même que vous me répondiez sur ma question, sur le déplacement du curseur, sur le traitement de la psychologie des hommes politiques. Vous avez l'impression que ça prend le pas, Marielle Darrigrand ?
Oui, je pense que la présidence Hollande aura marqué un moment, un cap. Je crois que c'est tout à fait évident. Qu'est-ce qui s'était passé avant avec la pipolisation, ce qu'on appelle pipolisation de la vie politique ? Au fond, l'homme politique, ça a été vraiment l'acmé avec Sarkozy, se prend pour un acteur. Donc, être people, c'est être dans la jet set et avoir des fans. Et Sarkozy a été vraiment l'extrême de ça. Il avait même son compte Facebook, emploi, job actuel, Élysée, etc. C'est assez rigolo. Ça a plutôt marché pour Sarkozy, la pipolisation. Même la fin, c'est pas à cause de ça qu'il n'a pas été réélu. François Hollande, ça a commencé comme ça, mais ça s'est pas terminé comme ça, pour le moment en tout cas. Mais il s'est passé quelque chose de négatif pour lui, qu'il n'a pas vu venir à mon avis, c'est que lorsqu'on est un people, on a des fans, et non plus des citoyens admiratifs. C'est là où il faut changer de paradigme, c'est plus la vedette avec des gens qui l'admirent. Ça, c'est le premier modèle de valorisation de la vie publique par la vie privée. C'est le modèle traditionnel Kennedy, Le Canuet, Mitterrand, Sarkozy. Avec Hollande, on passe à autre chose. C'est qu'il a eu des fans, au sens littéraire du terme, des fanfictions. Et les gens ont commencé à écrire l'histoire de sa vie privée malgré lui. Les hypothèses y sont allées. Et les journalistes, et je reprends le terme que vous avez employé, Jean-Marc, ou vous-même, on fait des récits. Votre livre est un récit, c'est pas une enquête. C'est un récit sur du récit. Donc c'est de la narration. Et du coup, nous, les citoyens récepteurs, nous sommes embarqués dans la fanfiction. On nous raconte et nous racontons aussi l'histoire. Votre livre va être un bon marqueur. S'il marche, c'est que ça plaît. S'il ne marche pas, c'est que le conte a été fait, le conte a été bon. Il y a eu le livre de Cécile Amar, il y a eu déjà beaucoup de choses. Dans votre livre, on n'apprend pas grand-chose. Il est bien écrit parce que vous avez une plume et que vous faites du bon métalangage. Mais ce n'est pas une enquête, on n'apprend rien.
Élise Carla.
Si je peux me permettre, allons-y. D'abord, il n'y a pas de... Le récit, c'est quand vous inventez. Moi, je n'invente rien, je pars...
Le récit peut être autobiographique.
Est-ce que vous saviez, par exemple, que Valérie Trierweiler avait demandé au biographe de François Hollande de ne pas dire un mot de Ségolène Royal dans sa biographie ?
Comme on savait qu'elle ne voulait pas que Ségolène Royal soit dans le film, le fameux film de fin de campagne.
Elle n'avait rien dit.
Non, mais je n'attaque pas votre livre dans le principe. Ce que je veux dire, c'est que votre livre...
Le terme de me dire qu'il n'y a pas d'enquête,
c'est
pas
tout à fait juste. Non, ce n'est pas de l'enquête, c'est de l'écriture.
C'est quand même des sources recoupées.
Non, mais moi, j'aime bien que les journalistes...
Non, mais je voudrais qu'on soit sur l'essentiel du propos de Marielle Darrigrand, quand même. C'est-à-dire sur le fait qu'on a un glissement vers quelque chose qui n'est plus contrôlé par l'homme politique. Je retraduis aussi ce que vous avez dit. Et où chacun peut s'approprier l'histoire. C'est un peu ça. Et où donc chaque journaliste s'approprie un peu l'histoire. Est-ce qu'il y a un moment de glissement comme ça ? Est-ce que vous, aussi du haut de vos 20 ans de journalisme politique, vous sentez ce glissement-là ?
Forcément, parce que les hommes politiques, finalement, se mettent beaucoup plus en scène aujourd'hui qu'ils se sont mis en scène il y a 20 ans.
Mais que ça leur revient un peu dans la figure.
Ça leur revient dans la figure, oui.
C'est ça dont il s'agit.
Mais Hollande n'a pas vraiment mis en scène, le pauvre.
Non, c'est vrai, mais en même temps, Hollande,
je crois qu'il a été justement en dépit de lui-même.
Vous avez raison, et en même temps, il a quand même donné une fois une interview à Gala. Je pense que c'est...
Une fois, c'est trop.
Voilà, à partir du moment où vous faites une fois, vous ne pouvez plus dire jamais.
C'est vrai.
Alors, il s'est passé un petit épisode sur lequel j'aimerais qu'on revienne, parce que les médias ont joué malgré tout un rôle central dans cette affaire, pas seulement la presse dite People. Je voudrais qu'on réécoute ce moment d'ailleurs que vous racontez dans le livre Élise Carlin, cette interview de décembre dernier dans le Grand Journal, où Antoine Decaune reçoit Julie Gayet et Stéphane Guillon, et il décide de faire glisser la conversation sur le terrain privé, avec des sous-entendus qui ne sont pas forcément d'une légèreté absolue.
Et vous, Julie, vous avez soutenu la candidature de François Hollande au moment de l'élection présidentielle. Je voulais savoir où vous en êtes aujourd'hui.
Mais je pense qu'on arrive pas loin du 31 décembre. Allez vous inscrire, quoi. Allez vous inscrire pour voter. C'est les municipales qui arrivent.
Vous le soutenez toujours aussi ardemment ?
Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo, aujourd'hui.
Elle a changé.
Pourquoi ça vous fait rire, Stéphane ?
Non. Moi, je... Non, c'est
quoi ?
Rien.
Quoi ?
Non, c'est vous qui avez commencé.
Mais non, c'est pas moi qui ai commencé.
D'accord, ok.
Il venait sur le tournage. Il
venait sur le tournage. Il aime beaucoup le film. Et donc voilà, le président aime le film. Sa femme, beaucoup moins.
Ah, c'est en entendant cet échange, semble-t-il, hein, que la directrice de la rédaction de Closer a choisi de mettre un paparazzi sur le coup. On connaît la suite. Mais ce sont donc quand même les médias les plus installés, les plus classiques, en l'occurrence Canal+, qui choisissent de s'aventurer sur ce terrain de la vie privée. En l'occurrence, Élise Carlin.
En tout cas, c'est eux qui rendent la rumeur crédible. Jusque-là, c'est une rumeur. Et soudain, ça devient, justement, si le grand journal en parle...
On voit bien, et là on va toucher l'autre partie de l'émission sur laquelle on sera tout à l'heure avec Mathieu Aron, mais Mathieu Aron, il y a un moment où les médias s'emparent de la rumeur, ils ont un rôle potentiellement de légitimation de cette rumeur. Enfin, quelle attitude ils ont par rapport à une rumeur, c'est pas toujours très simple. Hein. Dans le cas d'espèce, c'est intéressant.
Dans le livre avec Franck Cognard, on s'est beaucoup intéressé à cet épisode. On est revenu même plusieurs mois auparavant. L'épisode de Canal+ qu'on vient d'entendre. Il y a des premières rumeurs autour d'une liaison supposée du chef de l'État, et là, le chef de l'État la dément d'une certaine façon, puisque lors d'un discours, quand il remet une décoration à Edgar Morin, il a un discours anti-rumeur, d'une part. Deuxièmement, dans le même temps, lors du dîner annuel au CRIF, il fait un discours en visant les rumeurs. Au même moment, à quelques jours près, Valérie Trierweiler va sur un plateau de télévision pour elle aussi démentir les rumeurs. Et trois jours après, il se trouve que l'avocat de Julie Gayet porte plainte pour une possible violation de l'intimité de la vie privée parce que la presse People commence à parler de ces rumeurs. Et on a regardé ce qu'avait écrit la presse People dans les jours qui suivent. Et c'est tout à fait stupéfiant puisque toute la presse People relaie le discours que fait François Hollande devant le dîner annuel du CRIF et aussi lors de la remise de décoration à Edgar Morin. Pour dire quoi ? Nous n'allons pas faire ce que nous avons fait vis-à-vis d'un précédent chef de l'État, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. On lui avait prêté une relation et là, c'était une rumeur. Et la presse People fait machine arrière, c'est-à-dire que le démenti qu'avaient opéré François Hollande et Valérie Trierweiler marche.
Arrive à ses fins, du moins dans un premier temps.
Et c'est quelques mois plus tard que Closer décide de publier les photos. Et moi, je crois que dans la décision qu'il y a eu assez inouïe, effectivement, de la presse, mais parce qu'on a beau dire que c'est de la presse People, Closer a aussi des enquêteurs et c'est une presse.
Oui, et puis toute la presse a envoyé derrière.
De publier in fine les photos, c'est parce que cette presse qui avait fait preuve d'extraordinairement de réserve sur cette histoire jusqu'à présent a eu le sentiment de se faire avoir par la communication du chef de l'État. Et je crois
que c'est
une des raisons pour lesquelles finalement les photos ont été publiées. C'est en tout cas ce qu'on a pu trouver avec Franck en enquêtant sur cette affaire. C'est assez intéressant parce que d'habitude les rumeurs, on n'arrive pas à les démentir. Là, dans un premier temps, ça avait marché. Mais quand la presse People s'est rendue compte qu'elle s'était fait avoir, alors là, quelque part, je pense qu'elle y a été, Franck.
La presse a pris sa revanche.
Lorsqu'en mars, la rumeur naît une première fois, tous les sites de la presse People décident de ne pas y aller. Et ils n'y croient pas. Parce qu'à mon avis, d'ailleurs, ils pensent qu'elle est à peine crédible compte tenu de la personnalité de François Hollande. C'est ça qui est aussi intéressant. Et puis finalement, quelques mois plus tard, ils décident d'y aller.
Élise Carlin ?
Et c'est vrai que ce qui s'était passé au moment de la rumeur qui touchait Carla Bruni et à ce moment-là le chanteur Benjamin Biolay, le fait qu'il y ait une plainte et que donc ça soit arrêté tout de suite, ça fait aussi que Valérie Trierweiler a appelé Julie Gayet, peut-être que vous le saviez, mais en tout cas moi je ne le savais pas, c'est pour ça que je l'ai écrit.
Et quelle information ?
Il faut... Ah bah écoutez, c'est quand même pas rien la première dame qui appelle pour une rumeur.
Ce que je voulais vous dire, c'est qu'un journaliste ou une journaliste politique de bon niveau se doit de traiter la question que vous avez exposée, qui est en effet, je partage votre analyse, c'est un fait politique. La façon dont la vie privée s'est infiltrée dans la vie publique, c'est un problème politique. Mais à ce moment-là, il me semble que le bon journaliste politique que vous êtes doit réfléchir, faire un essai. C'est compliqué cette question-là et non pas un récit, c'est ce que je voulais dire. Votre livre est narratif. Nous avons besoin d'être éclairés sur un plan intellectuel.
Isabelle Verramasson qui voudrais... a Eric Chabrou.
Oui. Je me demande si la décision de publier les photos de Closer aurait été, et ensuite tous les commentaires qui auraient été la même décision sur un président de la République aussi affaibli, avec des très mauvais chiffres de popularité, constamment bâché, comme on dit, que cette rumeur devient preuve, donc fait politique, etc. Je pense que le fait politique, c'est en réalité la faiblesse, la fragilité du président de la République à ce moment-là. Je pense qu'un autre président à un autre moment, plus fort, ayant plus de succès politique, n'aurait pas eu ces attaques aussi à ce niveau-là. Parce que moi, je ne crois pas que ce soit un fait politique d'avoir une maîtresse.
Un sentiment là-dessus, Élise Carlin ?
Je crois que ce serait sorti quand même. Je pense qu'à partir du moment où un président de la République, quel que soit son niveau de popularité, a une double vie, ce serait sorti.
En même temps, vous écrivez, c'est dans la deuxième partie du livre, vous dites « Le mensonge privé est devenu un angle d'attaque politique », mais et on le voit pour venir bien déjà sûr, pour voilà. 2017, hein, c'est votre formule. Mais le sous-entendu de la phrase, c'est donc qu'avant, il ne l'était pas un angle d'attaque politique, que le mensonge privé est devenu un angle d'attaque politique. Donc il ne l'était pas avant.
Non, il n'était pas comme ça.
Est-ce que vous le déplorez ou pas?
En tout cas, quand on prône l'exemplarité sur des tas de questions, c'est compliqué d'être pris en flagrant délit, de ne pas être exemplaire par rapport à tout ce que vous avez annoncé. Parce que... notamment, je ne serai pas comme Nicolas Sarkozy, qui nous avait mis en voyeur.
Parce que l'histoire est truffée de grands hommes d'État qui ont une vie politique plus ou moins dissolue.
Je crois encore une fois que c'est la presse.
Une vie privée plus ou moins
dissolue. Oui, bien sûr, mais je crois que c'est la presse qui a changé. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. On peut le déplorer encore une fois, hein, mais ce n'est plus possible.
Alors, un mot encore sur cet épisode-là avec vous, Éric Chavroux, parce qu'il y a quand même cette... Il faudrait qu'on revienne sur cette image. C'est la fameuse image, hein, c'est l'image de Closer, pour l'homme au scooter. Ça renvoie à ce que disait Marine Darigan tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'appropriation par chacun de cette histoire-là, parce que c'est une non-image. En fait, on n'y voit rien en fait. Ce qui nous intéresse dans cette image, c'est ce qu'on n'y voit pas.
Oui, et le paradoxe, c'est que au moment où les politiques sont paparazzés jusqu'en maillot de bain, et d'ailleurs François Hollande a été pris en photo avec Valérie Trier-Weller sur une plage de Brégançon, à ce moment-là, donc où on connaît certains élus jusqu'en maillot de bain, on se retrouve face à des révélations de Closer où il n'y a aucune image direct du supposé couple illégitime. On a droit à presque un roman photo sans l'image clé du supposé couple Hollande-Gaillet. Et la preuve par l'image n'existe pas. Finalement, elle se fait par les instantanés avant et après la nuit vendue comme...
Donc ça veut dire que chacun peut faire son récit
Ça laisse libre cours à l'imagination collective. Et en plus, c'est démultiplié, selon moi, par le mélange de pouvoir, de politique et de sexe, qui fait que chacun va pouvoir fantasmer ce qu'il veut autour de l'événement, entre guillemets. On a retrouvé ça déjà précédemment, avec aussi ce qui a fait énormément de bruit médiatique. DSK, avec les mêmes ingrédients, le pouvoir, le politique, le sexe. Dans un lieu, un palace, où il y avait des caméras. D'ailleurs, BFM TV a très vite révélé les images de ces caméras, du départ de DSK jusqu'à l'arrivée de la police, en passant par Nafissatou Diallo, qui est prostrée dans un couloir. Mais là encore, on n'a pas l'image clé. Et là encore, ça laisse à tout le monde la liberté de s'imaginer, de fantasmer, avec tous les risques que ça peut entraîner et les dérives.
Élise Carlin, L'Express, Mathieu Aron, France Inter sont ce matin dans Le Secret des Sources pour analyser les relations des journalistes avec la pipolisation. On vient d'en parler avec les rumeurs. On va en parler dans quelques instants. Comme toujours, vous commentez, vous critiquez, vous complétez sur franceculture.fr. C'est sans doute la plus célèbre des chansons sur le thème de la rumeur et du bouche à oreille, où l'on apprend par la bande l'existence d'une histoire d'amour. Suivez mon regard. I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Y avoir dans la presse des ambiguïtés, de la confusion des gens sur le rapport vie privée-vue publique, il y en a aussi, on va le voir, sur le rapport rumeur-information. Mathieu Aron, vous publiez donc avec Franck Cognard Folle rumeur chez Stock. Évidemment, quand une rumeur s'avère fondée, comme ça vient d'être le cas avec la vie sentimentale du président, j'ai envie de dire que ça donne de l'eau au moulin à toutes les autres rumeurs. Ça peut inciter même une partie de la presse à prendre ces rumeurs au sérieux, à les prendre pour des informations, quand bien même souvent elles n'en sont pas.
Surtout quand avant on les a démentis et que c'est un président de la République lui-même qui les a démentis. Donc effectivement, si le président de la République dément des rumeurs qui s'avèrent vraies, ça a un effet absolument catastrophique sur l'opinion et sur la confiance qu'on peut ensuite accorder aux politiques. Mais J'oserais dire que c'est presque le contre-exemple absolu, puisque d'ordinaire, de très nombreux politiques, et d'ailleurs monsieur tout le monde aussi, sont visés par des rumeurs qui s'avèrent totalement fausses, imaginaires, fantasmées par après.
Et dans ce processus-là, alors les rumeurs, ça a toujours existé, c'est vieux comme le monde, mais ce qui est totalement nouveau, et ça vous le racontez très bien dans le livre, c'est que les réseaux sociaux et Internet sont une chambre d'écho absolument phénoménale qui sont propices à développer toutes les rumeurs, y compris les plus fantaisistes.
Et je crois que c'est un phénomène qu'on a même encore du mal à mesurer. C'est-à-dire que c'est très très récent, ça date de 3 à 5 ans, c'est l'explosion des réseaux sociaux effectivement, et qu'on est passé de rumeurs classiques, vieilles comme le monde, du bouche à oreilles, parfois diffusées plus largement quand elles apparaissaient dans la presse, et souvent c'était des erreurs journalistiques, puisqu'une rumeur est un fait faux, c'est-à-dire que c'est complètement fantasmé, mais autrement ça n'avait pas de diffusion autre que le bouche à oreille. Là, il se trouve que la possibilité que nous donnent aujourd'hui les réseaux sociaux ou des fils comme Twitter, effectivement, c'est une forme de droit de publication universel. Jusqu'à présent, le fait de communiquer à un grand nombre d'individus était strictement encadré, c'est-à-dire qu'il y avait le droit de la presse et toute une série de choses. Là, aujourd'hui, n'importe qui équipé d'un téléphone portable peut envoyer un message écrit ou des photos ou des vidéos à un nombre considérable d'individus, des abonnés, même s'il en a quelques dizaines ou quelques centaines, quand, comme eux-mêmes en ont quelques dizaines et quelques centaines, on s'aperçoit d'un effet de démultiplication considérable, ce qui fait que des rumeurs peuvent, en quelques heures, faire pratiquement le tour d'une région, le tour de la France, voire le tour du monde.
Mais pour que ça marche, et on va le voir, il ne faut pas que ça soit nécessairement n'importe qui. On va prendre quelques illustrations, parce qu'il y en a eu plusieurs ces dernières semaines. Par exemple, celle-ci.
À l'éducation nationale, en ce moment, il est en train de se passer quelque chose, une fois de plus, de tout à fait extraordinaire et de tout à fait catastrophique. Il s'agit de l'introduction, par autorisation du ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, de l'introduction de la théorie du genre dans les classes de primaire notamment, et l'objectif c'est de faire entrer cette théorie du genre à tous les niveaux de l'école.
Vidéo de Farida Belghoul, cette militante désormais proche d'Alain Soral et de la dieudosphère, qui a grandement contribué à la propagation de la rumeur selon laquelle la BCD de l'égalité à l'école viserait à diffuser la présumée théorie du genre. Là, on est sur un cas assez type.
Alors, sur un cas assez type, c'est assez compliqué. Parce qu'effectivement, il y a bien eu des ABCD de l'égalité qui ont été proposés dans les écoles. C'est une expérience. On peut être pour ou on peut être contre cette expérience. Et là, c'est un fait, mais c'est greffé là-dessus toute une série de rumeurs absolument aussi folles les unes que les autres, expliquant qu'on allait raconter à peu près n'importe quoi aux enfants, faire disparaître la défense entre filles et garçons, qu'on allait leur faire une forme d'éducation sexuelle totalement inappropriée à leur âge, et ça, c'est de l'ordre de la rumeur. Mais il y a d'un côté un fait, il y a bien des ABCD de l'égalité qui peuvent poser des questions légitimement d'ailleurs, et puis il y a une rumeur qui explique que ce qu'on explique dans les écoles, effectivement, c'est n'importe quoi. Et là, on s'aperçoit qu'il y a eu un impact considérable, que sur les réseaux sociaux, il y a eu des parents totalement inquiets qui ont été même jusqu'à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc là, on voit bien comment ça peut se diffuser à une vitesse grand V.
Ces rumeurs, il y en a eu plusieurs du même genre. Il y a eu la fameuse rumeur du 9-3 aussi, par exemple, hein, selon laquelle des municipalités en France se feraient payer pour accueillir des populations immigrées venant de Seine-Saint-Denis. En gros, c'est ça l'histoire. Le point commun quand même à chaque fois, c'est qu'elles naissent sur Internet et que souvent, ça vient de sites ou de blogs islamophobes d'extrême droite. Ils sont très présents là-dessus et on sait à quel point ils sont structurés. On l'a déjà raconté ici même.
Pour ce qui est des rumeurs politiques, parce que là on parle des rumeurs dans le champ politique, effectivement, nous, ce que l'on a pu constater, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle la fachosphère avait un rôle absolument considérable. C'est-à-dire que ça part de certains sites très identifiés. Le souci, c'est que tant que ça reste dans ce domaine, bon, ça vise un public très précis et puis déjà ultra militant et avec des idées qu'on peut connaître. Mais après, c'est quand ça déborde de la fachosphère. Et effectivement, il y a toujours un moment où ça rentre vers d'autres sites beaucoup plus généraux, beaucoup plus généralistes. Et là, ça va toucher un public beaucoup, beaucoup plus large qui va parfois y croire, effectivement.
Alors, c'est là, évidemment, où ça devient intéressant. C'est-à-dire, quelle attitude la presse classique doit adopter en face? Je voudrais qu'on reprenne l'exemple de cette présumée théorie du genre enseignée à l'école avec ce sujet, le 28 janvier dernier, de BFM Télé.
Dans cette école de banlieue parisienne, il manquait une grande partie des élèves lundi. Ce père de famille n'y a pas envoyé son fils de 8 ans et dans la classe de CE2, il n'y avait que 14 présents sur les 26 inscrits. L'opération s'appelle « Une journée de retrait de l'école ». Les organisateurs estiment que le programme ABCD Égalité, qui est actuellement en expérimentation dans 10 académies, ne convient pas aux enfants de primaire.
Imposer un programme qui s'appelle ABCD Égalité, qui porte un autre nom que celui avec la théorie du genre, donner une éducation plus ou moins neutre pour gommer les aspérités entre filles et garçons, ce qui est tout à fait louable. Le problème, c'est qu'on en arrive à une forme de promotion de l'homosexualité pour des enfants de 6-7 ans.
Voilà, on ne va pas écouter le sujet dans sa totalité, mais en gros, le sujet dure 1 minute 30, format classique, etc. Il y a 45 secondes pour entendre la position des boycotteurs de l'école, hein, et ensuite, il y a 45 secondes pour entendre le ministère de l'Éducation nationale, autrement dit, les propagateurs de la rumeur fausse à égalité, je résume, avec ceux qui se retrouvent contraints de se défendre face à une rumeur fausse. Et ça, c'est du truitement journalistique, entre guillemets. Enfin, c'est censé l'être, ça pose problème quand même.
Non, mais ça pose de gros problèmes et ça nous pose tous des problèmes aux journalistes. Ce n'est pas simplement les journalistes de BFM Télé, hein. C'est tous les journalistes.
C'était une illustration,
qui sont confrontés au même problème. Parce que vis-à-vis de telles questions, que faut-il faire ? Faut-il faire état du fait que des enfants n'ont pas été à l'école ? Oui. Faut-il expliquer la raison pour laquelle ils n'ont pas été à l'école ? Bien évidemment. Ce faisant, avec la meilleure volonté du monde, on est en train de propager une rumeur. Dans le même sujet, on va expliquer que c'est une rumeur, mais que effectivement, mais il y a toujours des gens qui vont y croire. Et il y a des gens qui vont être tenus au courant et qui vont être informés par les grands médias ou par tous les médias. Et on sait, quand on parle d'une rumeur, forcément, on décuple le poids de cette rumeur. Donc c'est quelque chose auquel on est confronté maintenant, pratiquement toutes les semaines, qui sont, il faut le reconnaître, hein, c'est une vraie difficulté journalistique. Quand on en parle, on amplifie le phénomène, et quand on n'en parle pas, eh bien, on ne remplit pas notre mission. Donc ce n'est pas simple.
Donc ça, c'est un peu la quadrature du cercle, mais il y a des situations où ça dérive davantage. Enfin, vous le racontez d'ailleurs, hein, par exemple, il y a un an quand même, Libération sur le compte en Suisse, entre guillemets, de Laurent Fabius, ou Valeurs Actuelles qui reprend une rumeur sur le fils de Christiane Taubira. Là, on est quand même, ça dérive un petit peu plus quand même.
Alors là, c'est une
il y a une réappropriation de la rumeur qu'on transforme en information, entre guillemets, sans avoir vérifié, c'est quand même beaucoup plus embêtant.
Là, c'est une autre dérive qui s'explique par la concurrence. Les médias traditionnels étant quelque part, moi je ne le crois pas, mais c'est une vision qu'on peut avoir, concurrencée par les médias et les réseaux sociaux, par le net, on va dire, peuvent avoir la tentation, et c'est ce qui a été fait dans les exemples que vous citiez, de dire on ne peut pas passer à côté de ce qui circule sur la toile. Donc on va rendre compte de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ce faisant, on va valider ces faits comme des informations. Et donc la boucle est bouclée.
Et on a rendu compte de la rumeur. Et vous dites, du coup, on en oublie les règles de prudence en vigueur dans toute rédaction.
Absolument. Parce que nous, ce qu'on doit faire, c'est toujours enquêter, vérifier. Une information, à la base, c'est un fait. Et ce fait, il doit pouvoir se vérifier, au moins avec, effectivement, deux sources et les règles du métier. Dire « il y a ça qui circule actuellement sur le net », ce n'est pas donner une information.
On a la sensation, Isabelle Verramasson, que sur ces questions-là compliquées, hein, mais que parfois, les journalistes perdent de vue la question centrale, qui est celle du vrai et du faux, pour faire simple. Enfin,
oui.
C'est ça.
Oui, il y a une confusion des termes, des notions et des concepts. Parce qu'en fait, sous le mot « rumeur », moi, j'ai trouvé votre livre très intéressant, mais il y a des choses qui me semblent quand même qui mériterait peut-être d'être un peu précisé, séparé, en particulier la question de la désinformation, la question de l'intox, tout simplement. Il y a des rumeurs qui sont contrôlées, qui sont en fait qui ont une fonction de désinformation, de manipulation. Et puis, traditionnellement, la rumeur, elle, au contraire, est assez loin de cette formation d'opinion. Elle est plutôt, au contraire, de l'ordre de l'incontrôlé, de l'ersatz de conversation, de quelque chose dont on ne saisit pas l'origine, la grande peur, hein, de 1789. Donc c'est plutôt quelque chose dont on ne connaît pas bien l'origine. Et il me semble que ce sont deux choses assez différentes. Et puis l'autre question, c'est effectivement la question du vrai et du faux. Est-ce qu'une rumeur est toujours fausse, comme vous le dites ? Vous dites, rumeur, la rumeur est un fait faux.
La preuve non. Que non, avec Hollande Gaillet.
Exactement. Oui, on pourrait donner d'autres exemples. Hein. La fille cachée de Mitterrand était longtemps une rumeur. Ce que je veux dire, c'est que... Et en fait, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une distinction, non pas entre rumeur vraie et rumeur fausse, mais rumeur et information ? C'est-à-dire la rumeur, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé, sur lequel il n'y a pas d'information certaine, ou bien ça devient une information. Et puis l'autre chose, c'est la question de l'éthique et de l'éthique journalistique. Et est-ce qu'il y a toute information est bonne à dire ? Encore une fois, est-ce que ce qui se passe dans une alcôve est véritablement, même si nous sommes curieux de ce genre de choses, est-ce que c'est à mettre dans toutes les conversations et les mains ?
Mais c'est vrai que le terme rumeur aujourd'hui est devenu un terme générique et on peut y voir beaucoup de choses. Je vous avais tout à fait
raison. Différente, en fait.
Vous avez tout à fait raison. Deux choses. La première chose que nous, on a souhaité faire à travers l'enquête qu'on a faite, c'est donner au lecteur un sentiment qui est le nôtre, qui est que le virtuel, ce qui est faux, envahit de plus en plus souvent le monde du réel. Que ce soit, je dirais, parce que des gens de bonne foi, entre guillemets, propagent des infos qu'ils croient justes, mais ils se trompent, ce ne sont que de simples rumeurs, ou que ce soit par malveillance. Et que ce soit dans le domaine du politique, comme on a pu le voir effectivement et comme on a pu beaucoup en parler, mais dans des domaines autres qui sont ceux de l'économie, celui de tout le monde du fait divers, où on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre de rumeurs absolument insensées qui circulaient actuellement en France. Il n'y a plus une semaine par an qui se passe sans que des policiers ou des gendarmes enquêtent sur de fausses affaires d'enlèvement, des faux signalements, donc ce sont des moyens considérables qui sont utilisés à perte. Donc nous, c'est ça qui nous a fascinés. C'est-à-dire que de plus en plus, on a le sentiment qu'une confusion s'instaure véritablement entre, comme vous le dites, le vrai, le faux, ce qui serait de l'ordre d'une information, ce qui serait de l'ordre d'une intox, et qu'on est un peu menacé d'une forme de confusion généralisée. C'est ça qu'on a voulu expliquer, en quelque sorte.
Alors, on évoquait tout à l'heure le fait que la pipolisation finissait par placer les politiques dans un piège qu'ils se sont au départ un peu eux-mêmes tendus. Dans le cas de la rumeur, c'est un peu différent, mais c'est vrai qu'il y a piège aussi. Et l'exemple le plus célèbre de ces dernières années, c'est celui-ci.
À Toulouse, c'est un secret de polichinelle. Le nom de Dominique Baudis, ancien maire de la Ville Rose, est cité dans la nouvelle affaire Allègre. Ce soir, Dominique Baudis en personne le révèle pour, dit-il, lutter contre le poison de la rumeur. Il dénonce une effarante machination. Deux anciennes prostituées accusent Dominique Baudis d'avoir participé à des soirées sadomasochistes avec Patrice Allègre, le tueur en série. Nous avons rencontré l'une d'elles, Patricia, très récemment.
Vous vous rendez compte que ce que vous dites est important, hein. Vous êtes un témoin direct contre Dominique Baudis.
Oui, mais je suis pas la seule. Je suis pas toute seule.
Alors, c'était il y a 11 ans, hein, Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, président du CSA, qui vient de nous quitter, contraint à l'époque de démentir cette rumeur qui se révélera totalement mensongère. Et à l'époque, et là il y avait un fait déjà prémonitoire ou révélateur, le fait qu'il la démente avait été en grande partie contre-productif, c'est-à-dire que ça avait alimenté la rumeur, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet stressant de Mathieu Aron.
Oui, c'est le fait de démentir une information, en fait, décuple la force de cette fausse information. Dans le cas de Dominique Baudis, moi, il se trouve que je l'ai rencontré à cette époque, parce que j'avais enquêté sur cette histoire, et je lui ai posé la question de savoir pourquoi il avait été sur ce plateau de TF1. Je crois que lui-même savait pertinemment qu'il allait amplifier l'écho considérable de cette affaire. Ce qu'il m'avait expliqué à l'époque, c'est qu'il était impossible pour lui de ne pas réagir, qu'il ne se voyait pas rester inerte face à des accusations aussi terribles que celles qui étaient lancées contre lui. Donc, on s'aperçoit que le premier réflexe des gens, c'est d'aller dire « Mais attendez, c'est pas possible, c'est faux, croyez-moi, c'est faux ». Or, il se trouve que comme, entre guillemets, les innocents sont les gens qui s'expliquent le plus mal, forcément, ils n'ont rien à vendre à part leur innocence, personne ne les croit, ou alors si on les croit, on se dit « Il n'y a pas de fumée sans feu », et ça a un effet absolument terrible. Donc, c'est pas simple.
Et Lise Carlin, on voit bien que tous les sites des grands magazines et des grands journaux politiques font des indiscrets, hein, comme on dit maintenant. Est-ce qu'il y a parfois la tentation d'aller trop vite, c'est-à-dire l'indiscret, souvent, c'est une rumeur, là aussi. Enfin, c'est un petit truc qui vous est dit, mais c'est pas nécessairement vérifié. En même temps, on a envie de le publier. Est-ce que parfois, on peut le publier trop vite?
Non, on ne publie pas si on n'est pas sûr, normalement, ou alors vous ne faites pas votre métier, quoi. Ça arrive, hein, bien sûr. Mais l'idée de recouper avant d'écrire, ça doit quand même rester ce qui nous guide, quoi.
Et puis, Mathieu Aron. Et puis, il ne faut pas croire qu'on maîtrise tout, qu'il y aurait des médias comme ça qui maîtriseraient tout du début jusqu'à la fin. Un fait qui est exact, qui va être révélé, va tout d'un coup être interprété, va prendre une importance que le journaliste légitimement ne mesurait pas forcément au début. Moi, je pense que déjà à la base, si on ne donnait que des informations absolument exactes, ce serait déjà parfois un progrès et qu'on pourrait commencer par ça. Après, c'est vrai que je comprends, hein, que les gens puissent se dire « Mais attendez, vous parlez de ça, mais vous vous rendez compte, quel intérêt ça a? Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous ne dites que ça ?» Mais bon, voilà, nous, on fait un métier qui est donné d'abord des faits. Donc déjà, essayons de faire en sorte que les faits soient vrais.
Si on élargit encore un peu le sujet et pour conclure, on se retrouve finalement confronté à une question qui est assez grave aujourd'hui. C'est celle de notre identité à tous, pas seulement celle des hommes publics, mais particulièrement celle des hommes publics à l'ère du numérique. Là encore, Éric Chavroux, il y a quelques épisodes très récents là, sur Internet et sur les réseaux sociaux qui nous démontrent que les rumeurs,
meurent, les atteintes à la vie privée se rejoignent et que ça se mélange allégrément pour finir par redéfinir totalement nos identités et que surtout on est à l'abri de rien nulle part.
Oui, il y a deux exemples récents. D'abord, Jean-Marc Ayrault en vacances, géolocalisé au Vietnam la semaine dernière par un utilisateur de Twitter, un tweetos qui ne se prive pas de publier pour preuve de photos volées, j'insiste bien, dans un restaurant. Alors, Tac Tac, c'est le surnom du tweetos en question, qui affiche même une de ces deux photos pour son profil sur Twitter en grande taille, en écrivant en dessous, pour fait d'armes, je cite, « Héros au Vietnam est à voir en follower ». Un ancien Premier ministre qui se retrouve, bien malgré lui, avant de redevenir député, exposé à tout un chacun dans une situation banale. Voilà. Même si ce qui est intéressant, c'est de noter que cette information a été reprise par beaucoup de médias, mais en revanche, elle n'a pas été si partagée, si retweetée que ça, puisqu'il y a eu moins de 100 retweets.
Ce qui est peu.
L'autre exemple, là aussi très récent, c'est le nouveau jeune conseiller presse de François Hollande,
Caspar Grandsœur,
qui vient de se faire remarquer par le site Le Lab d'Europe 1, par une série de photos sur Facebook. Alors, ce sont des images de soirées qui remontent à 2007, sur lesquelles il apparaît avec une cigarette roulée qui semble être un joint. Alors, le nouveau communicant, il dira que il a oublié ses photos. Mais il y en a une très vite qui tout de même va disparaître de son profil public et aucun commentaire sur l'usage du cannabis.
Face à cette évolution, Mariette Daré-Grand, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut aller justement vers un effet retour, c'est-à-dire un retour du secret, une tentation à la fois de la part des hommes publics, de la part de leurs communicants, de la part de tout cet entourage, voire des médias à un moment donné, de se dire il faut peut-être en revenir à une forme de secret?
Oui, ça, je crois qu'on est dans un effet de balancier. Du point de vue des hommes politiques, ça va, je crois que c'est ça qui va arriver, au risque d'ailleurs que les progrès en matière de transparence démocratique soit régressif. Alors, pour les journalistes, pour moi, la question là, que vous avez soulevée aujourd'hui, c'est celle du peut-on faire l'économie des interprétations du public. Ça, nous sommes dans un monde qui envoie beaucoup, beaucoup de signes et les récepteurs ne sont plus passifs. Ils n'attendent pas, ils sont émetteurs eux-mêmes et ils sont journalistes eux-mêmes, mauvais journalistes, ils ne vérifient rien, etc. Mais je crois que ça complique votre travail à vous d'émetteur officiel, en quelque sorte, patenté avec votre carte, parce que aucun fait ne vous arrive tout seul. Un fait arrive toujours avec du discours et une sorte de gang qu'il va falloir enlever. Et l'exemple de Théorie du genre était parfait parce que théorie du genre, ça n'a jamais existé. C'est un mot de propagande qui a été donné dans le discours. Ça n'est pas ça, mais il fallait lire à l'ABC de l'égalité qui était inepte. Mais quel journaliste l'a lu ?
Élise Carlin, sur cette tentation du retour du secret ?
Moi, je pense qu'on ne reviendra jamais au secret parce que c'est l'évolution de la presse. C'est comme ça, c'est comme si vous vouliez revenir avant l'électricité. Voilà. Aujourd'hui, l'électricité, c'est formidable. Et après, il y a des endroits où on aimerait mieux être encore au charbon et avoir une petite lumière douce, mais ce n'est pas possible. Et en même temps, le fait même qu'il n'y ait pas beaucoup de retweets sur les photos privées, totalement privées, qui ne concernent personne, ça prouve bien que...
Mais c'est repris par la presse classique. C'est comme ça aussi que nous disait Éric Chavroux. Donc, il y a une ambiguïté. Hein.
Ça n'a pas de suite parce que les gens... Je pense que les gens voient, il y a des choses qui les intéressent, il y en a qui ne les intéressent pas. Jean-Marc Ayrault au Vietnam, c'est sa vie, c'est ses vacances. Voilà, je pense qu'il y a des choses, d'une certaine manière, qui ne vont pas plus loin que ça aussi, parce que les gens savent ce sur quoi il faut s'arrêter et ce sur quoi il n'y a pas besoin de s'arrêter.
Un minimum, Éric Chavroux, puis Mathieu Rand.
Mais il y a des sociétés spécialisées dans l'irréputation qui nettoient le web pour n'importe quel client. Est-ce que le risque, ce n'est pas que les politiques deviennent leurs meilleurs clients?
Oui, bon, je crois possible. Qu'il y a des Oui, je crois qu'il faut revenir à l'histoire des médias qui montre que, au contraire, les hommes politiques savent très bien s'organiser face aux évolutions de la presse. Par exemple, je me souviens de l'arrivée des directeurs de communication, c'est-à-dire c'est la manière dont les hommes politiques, les entreprises ont organisé la communication vers les journalistes pour contrôler cette information. Il est très possible qu'il y ait d'autres, et vous parliez de hyper-réputation, c'est exactement ça, il y avait des méthodes pour contrer ce désir de transparence bien ancien de la presse.
Et Mathieu Aron, là-dessus, vous parlez d'ailleurs de la conseillère en communication à Nomel, dans le livre, qui se livre à ce genre d'exercice un peu de contrôle, enfin de tentative de contrôle.
Bah, c'est son métier. C'est son métier. Et c'est une experte en la matière, experte en communication. Non, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit tenir compte, en donnant une information, de la manière dont le récepteur
capte.
Va le recevoir. Je n'en sais rien. Je vais vous le dire franchement, parce que je crois qu'effectivement, on ne reviendra pas au temps du secret. Et je pense que globalement, pour une démocratie, c'est plutôt mieux. Il faut le dire franchement les choses. Après qu'il y ait des excès, c'est évident. Maintenant, est-ce que dans ce que l'on dit, dans les informations que l'on livre au public, il faut se demander comment le public va réagir? Peut-être, mais je n'ai pas la réponse. Là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, mais je pense que déjà, notre métier, c'est de donner des informations. Quoi.
Ce sera le quasi-mot de la fin pour aujourd'hui, puisque comme toujours, le dernier mot revient au clin d'œil de Yacine Bouzard et Nathalie Lopez, qui inventent aujourd'hui une journée d'information au rythme d'une rumeur politique fantaisiste, ou comment on pourrait subrepticement passer du conditionnel à l'indicatif, du bruit de couloir à l'erreur journalistique, le tout sans état d'âme.
Une journée médiatique. 3 mai 2014, 11h48, on peut entendre sur les ondes.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Zoé.
Que se passe-t-il sur la toile ?
Eh bien en ce moment, le net est en ébullition, on ne parle que de ça sur tous les grands réseaux sociaux. Nicolas Sarkozy ferait son grand retour à l'Élysée. En effet, François Hollande envisagerait de nommer Nicolas Sarkozy pour, je cite, « devenir le co-président de la France suite à la situation de crise que traverse notre pays ».
3 mai 2014, 12h45. Édition spéciale.
Nicolas Sarkozy aurait été vu aux abords du palais présidentiel ce mardi matin. La rumeur selon laquelle François Hollande ferait appel à M. Sarkozy ne cesse d'enfler. L'entourage du président Hollande semblerait confirmer l'arrivée de M. Sarkozy à l'Élysée.
3 mai 2014, 14h02.
Nicolas Sarkozy est annoncé à l'Élysée pour devenir co-président de la France. Cette information n'a toujours pas été démentie par les services de la présidence.
3 mai 2014, 20h.
C'est une première sous la Ve République, deux présidents pour gouverner la France. François Hollande fait appel à Nicolas Sarkozy pour sauver le pays.
3 mai 2014, 22h.
La rumeur a couru toute la journée selon laquelle Nicolas Sarkozy et François Hollande deviendraient co-présidents de la France. Une information qui vient d'être démentie par l'Élysée. Bonne fin de soirée, à demain pour de nouvelles informations.
Et si vous êtes mal réveillé, c'était un simple petit sketch Orson Wellesien. Les vraies infos, c'est pour dans une minute. Politique, rumeurs, vie privée, la presse entretient-elle la confusion des genres? Comme toujours, vous commentez, vous réécoutez, vous téléchargez sur franceculture.fr. Élise Carlin, Mathieu Aron, Isabelle Véramasson, Mariette Darigrand, Éric Chavroux étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Merci à tous. Élise Carlin, le président qui voulait vivre ses vies, c'est paru chez Fayard. Mathieu Aron avec Franck Cognard, folle rumeur, ça vient de paraître chez Stock. Dans quelques minutes après le journal de Sarah Petitbon, réplique sur France Culture avec un thème qui présente d'ailleurs certains points communs avec ce que l'on vient d'évoquer. La démocratie a-t-elle besoin de limites ? Alain Finkielkraut reçoit Cynthia Fleury et Dominique Schnapper. Prenez soin de vous.
Moi, je pense que la presse, légitimement, devait rendre compte de l'affaire Hollande-Gaillet. Et je pense qu'elle l'a fait avec des faits qui sont révélés totalement exacts.
Je pense que le fait politique, c'est en réalité la faiblesse, la fragilité du président de la République à ce moment-là.
Moi, je pense qu'on ne reviendra jamais au secret, parce que c'est l'évolution de la presse, c'est comme ça, c'est comme si vous vouliez revenir avant l'électricité. Voilà. Aujourd'hui, l'électricité, c'est formidable, et après, il y a des endroits où on aimerait mieux être encore au charbon et avoir une petite lumière douce, mais c'est pas possible.